Comment trouver un logement?
Où trouver une école francophone, un docteur, une banque?
Comment améliorer mon anglais? Ou chercher un emploi?
Si vous vous posez ces questions, restez à l'écoute. Vous êtes dans l'émission Bienvenue à Toronto. Tous les samedis à 10h et en rediffusion les dimanches à 17h. Sur chaque FM 105.1, Bienvenue à Toronto vous propose un thème différent avec des invités experts ou des témoins pour vous aider à réussir votre installation dans la ville reine.
Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes dans l'émission Bienvenue à Toronto. Ici Nathalie Salmeron au micro avec vous donc tous les samedis à 10h et en rediffusion les dimanches à 17h. Bienvenue à Toronto, c'est quoi? Eh bien, Bienvenue à Toronto, c'est une émission de radio hebdomadaire qui est destinée aux nouveaux arrivants dans notre belle ville de Toronto. Et on aborde tous ensemble des sujets qui concernent un petit peu toutes les questions qu'on a pu se poser justement quand nous sommes arrivés dans ce beau pays qu'est le Canada, que ce soit les démarches pour ouvrir un compte en banque, que ce soit pour ouvrir une ligne téléphonique ou des sujets un peu plus sérieux, entre guillemets, comme aujourd'hui, on va parler d'éducation avec pour aujourd'hui donc un thème, les écoles francophones à Toronto. Car oui, on a beau être dans une ville majoritairement anglophone, il y a beaucoup de ressources francophones et notamment des écoles pour les enfants. Mais pas que, il y a aussi des programmes d'éducation pour les adultes et on en reviendra un peu plus tard sur ce sujet au cours de cette émission. Avec moi aujourd'hui autour de cette table, trois femmes géniales que j'aime beaucoup. Marine Autogali, comment tu vas Marine aujourd'hui?
Salut Nathalie, ça va très bien, je suis très contente d'être là.
Anaïs Delomel, que vous voyez souvent sur nos vidéos TikTok et Instagram, notre chargée de communication.
Bonjour Nathalie et bonjour à tous.
Ça va Anaïs aujourd'hui, cool?
Très bien.
Et avec nous, notre figure de l'éducation, Estelle Loza, comment ça va?
Oh là là, c'est trop. Bonjour, ça va bien.
Alors justement, donc je le disais, on va parler des écoles francophones à Toronto. Alors forcément, Marine et moi, on est un petit peu out dans le sujet parce que nous, on n'a pas eu la chance forcément d'aller suivre des cours ici dans des écoles francophones. Mais il y en a quand même beaucoup. J'ai d'ailleurs sorti une liste des écoles. Bon, déjà, nous, ici, en étant à Choc FM, on est, on est quand même bien placés pour parler d'écoles francophones puisqu'on est à Toronto-Ouest, dans les locaux de Toronto-Ouest, entre les deux conseils scolaires, Viamonde et...
Mon Avenir.
Exactement. et du coup, écoles francophones. Mais il y en a aussi plein d'autres. Il y a Gabriel Roy, il y a... Charles
Sauriol. Alors en fait là, ouais, tu es en train de citer des écoles élémentaires de l'école, ouais, du conseil Mon Avenir. Et si tu voulais vraiment citer d'autres conseils ou d'autres écoles qui appartiennent pas à ces deux conseils-là, qui sont des conseils publics, tu pourrais citer la TSF, Toronto French School, tu pourrais citer plutôt des écoles privées. Là, les deux écoles, les deux conseils que tu as cités, c'est des conseils publics.
Donc gratuits, ça veut
donc
dire aussi.
Donc gratuits, exactement. Mais attention, par rapport à la France, public, des fois, il y en a qui sont catholiques. Par exemple, Mon Avenir est catholique, alors que Viamonde est laïque.
Mais justement, c'est une bonne chose que tu dis ça, Estelle, parce que forcément, quand on dit école catholique, est-ce que ça veut dire que les élèves doivent être forcément baptisés, par exemple, pour rentrer dans cette école?
Alors, pas toujours, non. C'est-à-dire qu'un des parents doit être baptisé. On propose le baptême à nos élèves. Alors, on a toute communauté, en réalité, dans les écoles catholiques. On est beaucoup plus ouvert que ce qui n'y paraît.
Oui, c'est ça, parce que quand on se dit catholique, oui, on se dit, si je suis de confession musulmane, bouddhiste ou juive, est-ce que je peux quand même inscrire mes enfants?
Okay. Oui. À partir du moment où vous êtes francophone, déjà, et puis il faut se renseigner sur chaque école, bien évidemment. Le but étant que tu aies le droit à l'éducation où tu es dans ton
quartier,
exactement. Donc, il va y avoir plutôt des questions de catchment area, c'est-à-dire est-ce que tu appartiens à la zone de l'école? Ça, c'est sûr. Mais après, étant donné que c'est quand même public, on est assez ouvert. C'est vrai que si tu vas dans une école catholique, il faut t'attendre quand même à ce que ton enfant suive, par exemple, la messe.
Voilà, il y a quand même des petites choses à suivre le matin.
Voilà, mais c'est pas aussi strict, je dirais, qu'en France, où souvent les écoles catholiques, c'est privé. Par contre, ce qui est vrai, dans nos écoles catholiques, il y a le port de l'uniforme, par exemple. Il y a des petites choses qui sont différentes.
Est-ce que, c'est...
Oui, bien sûr, Marine.
Parce qu'effectivement, c'est très différent. Moi, venant de France, la distinction catho et laïque est différente. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des uniformes, du coup, dans les écoles laïques ?
Je ne crois pas. Je veux pas à ma connaissance.
Pas ici, en tout cas, dans le... Parce que nous, du coup, c'est comme ça qu'on les reconnaît un petit peu dans les couloirs, ceux qui n'ont pas l'uniforme. Et pour ce qui est du conseil public, du coup, non, ils sont habillés de façon classique. Mais moi, je trouve que... venant, moi, de France et ayant vécu toute ma scolarité en France, je trouve que le port de l'uniforme, bah, des fois, pour certaines personnes, c'est aussi quelque chose qui pourrait les aider. Parce que des fois, bah, on n'a pas la chance d'avoir des parents qui ont des moyens de dingo pour acheter des marques qui coûtent super cher. Et puis, on sait que quand on est jeune, les critiques, elles sont faciles. Les jeunes, ils sont quand même à tout âge. Hein, parce que même des fois, petits, on se rend compte que « Ah, bah, t'as pas les bonnes baskets. Ah, bah, ta virgule de Nike, elle est dans l'autre sens. » Parce que tu l'as acheté une contrefaçon quand t'es parti en vacances dans un pays XY et que t'avais ça et que tu t'es dit « Ah, oh, c'est cool. » Mais du coup, je trouve qu'au moins, le fait d'être en uniforme, peut-être que ça a l'air un petit peu strict, mais pour le coup, ça met un peu tout le monde sur le même pied d'égalité.
Oui, et on a évolué. C'est-à-dire que, par exemple, le durag est autorisé. Toutes les coiffures qui sont en lien avec ton appartenance culturelle sont autorisées. Donc, on est bien plus ouvert que ce qui n'y paraît. Et surtout, ce qui est génial, c'est que c'est souvent nos élèves qui font le design de l'uniforme. Donc, ils s'y retrouvent. Ils aiment porter l'uniforme quand c'est eux qui se sont vraiment investis dans l'uniforme.
Parce qu'ils n'ont pas l'impression que ce soit trop imposé. Du coup, ils ont quand même le choix un peu.
Et ce qu'on a fait aussi qui est très bien, c'est qu'on a arrêté de faire payer les élèves pour les journées civiles. Les journées civiles, ça veut dire que tu arrives à l'école sans uniforme. Et avant, on le faisait payer parce que ça permettait au conseil des élèves de faire des activités, de proposer des activités à toute l'école. Mais on s'est rendu compte effectivement que y a certains enfants qui venaient tout le temps en uniforme parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de se payer cette fameuse journée civile. Et finalement, on a arrêté ça. On a dit, écoute, quand c'est journée civile, c'est pour tout le monde. On fait aussi des journées thématiques. Et on veut en fait... Le but, c'est surtout que l'élève soit fier de venir avec son uniforme ou aux couleurs qui est proposée quand c'est la thématique. Donc, on est beaucoup moins... avant, effectivement, c'était un petit peu... on voulait de la rigueur, on voulait... C'est une bonne chose aussi parce qu'on apprend aux élèves, quand tu arrives sur ton lieu de travail, tu es censé quand même avoir un respect par rapport au lieu où tu es. Donc, c'est normal que tu aies une tenue adéquate. Mais honnêtement, nos élèves sont hyper respectueux. On s'est rendu compte que finalement, c'est aussi leur identité. Donc, il faut qu'ils se retrouvent dans cette identité. Donc, on essaye plutôt maintenant que ce soit un sentiment d'appartenance à l'école, qu'ils soient contents et fiers de porter un peu comme un maillot de sport ou ce genre de choses.
Oui, c'est ça, comme sur... faisait partie de l'équipe,
voilà.
du truc.
Quoi. Donc, il y a vraiment, oui, il y a beaucoup de choses à dire sur l'uniforme. Je sais que c'est un sujet, des fois, délicat en France. Il faut l'expérimenter pour avoir du recul, je pense. Il y a des bonnes choses, comme il pourrait y avoir de très mauvaises choses. Si tu viens trop rigoureux, si tu es toujours en train, dès que tu arrives, c'est un peu comme un contrôle, un peu. Hein.
C'est ça.
Je contrôle comment tu es habillé. Là, ça peut poser problème.
Et puis, il y a aussi ce truc que moi, je trouvais un peu dérangeant, des fois, pour en avoir vu, de mes yeux vus, personnellement. Dans le métro, des fois, tu les vois, les petites jeunes, je vais parler principalement des filles pour le coup, et des jupes.
Ah, alors c'est une grosse question, ça.
Ouais, et moi, j'ai déjà vu des yeux un peu pervers d'hommes un peu vieux, un peu beaucoup trop vieux pour poser ce genre de regard. Quand c'est des petits jeunes entre eux, je me dis, bon, c'est l'âge de la dragouille et tout. Je peux comprendre et c'est OK. Quand je vois que c'est un mec qui pourrait être clairement le papa, voire le grand-père de cette jeune fille en question, je me dis, la jupe, c'est un peu court. Je la trouvais un peu courte. Et on avait une de nos stagiaires ici qui s'appelait Julia, que les auditeurs Choc FM ils connaissent bien parce qu'elle a sa voix un peu sur pas mal de trucs. Et elle a fait partie justement du conseil scolaire.
Oui, Mon Avenir. Elle est à Saint-Frère-André.
Ouais. Voilà. Et du coup, on en avait parlé. Je lui ai dit, mais je te vois jamais avec la jupe. Elle m'a dit, non, maintenant, on a les pantalons.
Exactement, il n'y en a pas dans l'uniforme. En fait, ce sont des pantalons. Mais sachez que chaque année, on a quand même des élèves qui font la demande pour les jupes. Donc voilà, ça reste encore un sujet. C'est assez drôle parce que du coup, ça apporte plein de débats.
Ouais.
Effectivement, une jupe, oui, non, pour qui ? Parce que est-ce que les garçons, est-ce qu'ils ont le droit de porter la jupe ?
Est-ce que la jupe peut avoir un genre comme un jupe short aussi ? Parce
exactement.
Qu'à la limite, ce serait moins vu comme un truc sexy. On se dit, je vais regarder en dessous, comme un genre de vieux vislard. Là, au moins, on se dit, si c'est une jupe short, même s'il y a un coup de vent ou quoi que ce soit, il n'y aura pas ce truc de, on se dit, je vais essayer de regarder en dessous.
Non, mais je pense que les élèves, ils trouvent leur solution aussi. C'est-à-dire que c'est en débattant entre eux, en voyant, des fois, il y en a qui peuvent être finalement gênés par la jupe pour plein de raisons, pas
oui,
seulement
c'est
là,
pour ça.
Oui,
c'est l'âge, en fait, complexé pour
exactement.
Plein de trucs aussi.
Exactement. Donc, finalement, le pantalon a été la bonne solution pour mon école. Mais je pense que l'important, c'est de garder la communication sur l'uniforme. C'est-à-dire poser la question aux jeunes, voir comment ils débattent. Et vraiment, nous, quand on a fait les tables rondes, justement, sur l'uniforme, pour savoir, est-ce qu'on autorise le douraille ? Parce qu'il y avait, une vraie question sur ça. Parce qu'il y a des couleurs de gang, par exemple. Donc, imagine que tu arrives le lendemain avec, justement, quelque chose qui a un sens.
Une appartenance.
Une appartenance ouais. autre, et puis qui peut porter conflit. Donc ça, c'est compliqué à gérer dans une école secondaire.
Puis surtout qu'on ne suit pas forcément les tendances
pas
des
du
trucs.
Tout.
Et des
t'as fois, aucune
on se dit,
idée,
bah, c'est
toi.
Juste...
Exactement.
Le gars a voulu mettre ci ou ça, on ne se rend pas compte
exactement.
De tout le contexte que
et
ça peut apporter.
Exactement.
Quoi.
Et c'est là où j'ai trouvé que nos élèves, eh ben, ils font preuve de sens de responsabilité. Parce que c'est eux-mêmes qui ont vraiment précisé ça, qui ont vraiment... Il ne faut pas toujours associer. C'est vrai qu'on a tendance à mettre certains symboles là où ils ne sont pas forcément.
Ouais.
Et c'est parce que justement, on n'est pas connaissant que ça crée des fausses peurs, réellement.
Bah, comme tout dans la vie.
Comme
hein.
tout. Et finalement, c'est en parlant avec nos élèves qu'on s'est rendu compte que c'était une fausse idée. Et que peut-être dans certains alors, quartiers, après, ça dépend aussi, c'est toujours pareil, ça dépend de tes élèves, de ta communauté, de peut-être dans une communauté, ça n'aurait pas été possible. Nous, on s'est rendu compte qu'en parlant avec nos élèves, non, ils étaient très respectueux. Enfin, c'est pas du tout dans un sens revendicatif quand ils mettent leur... En fait, c'est très esthétique. Tu te rends
ouais.
compte que c'est vraiment une question de coiffure, réellement. Donc oui, je pense que tout peut parler. En fait, à partir du moment où tu lances le débat, tu peux comprendre l'autre, tu fais des pas vers l'autre et tu comprends pourquoi, c'est quoi le sens pour lui, est-ce que c'est important ou pas, et eux-mêmes, ils vont faire le tri.
Donc ouais, c'est, se dire
entre
bon,
les vraies
en vrai,
revendications
ça...
et puis les revendications qui sont moins pertinentes, peut-être.
Toi, Anaïs, t'as suivi ta scolarité ici, quand même, dans des écoles francophones. Mm-hmm. C'est quoi, un petit peu, avec le recul, parce que maintenant, t'es à l'université, t'es plus dans le cursus jeune, on va dire, petit, en tout cas. Mm-hmm. Avec le recul, c'est quoi l'expérience que t'as eue?
Bah, en fait, c'est très intéressant de parler de l'uniforme parce que moi, quand j'étais à Québec, j'ai fait mon primaire à Québec et en fait, j'étais dans une école de musique où je portais un uniforme. Et justement, en tant que fille, on avait accès donc à des shorts, à des pantalons, mais aussi en fait aux fameuses cortes. Le short jupe.
Ouais. Ah, c'est des short jupe alors.
Oui.
Il y a quand même toujours un short
oui,
en dessous de la...
Oui,
ah,
oui.
D'accord.
On avait des short jupe et on avait en fait une jupe qui était plissée. Et en fait, ça, c'était une jupe qu'on devait mettre quand c'était des événements importants. Mais par contre, le skirt, en fait, on pouvait la porter n'importe quand. Donc ça, c'est par rapport aux uniformes. Et quelle était ta question par rapport...
De ton expérience à toi dans les écoles francophones que tu as pu
dans visiter. Moi, personnellement, tout s'est bien passé. Je sais que ma sœur... C'est assez intéressant parce que ma sœur, elle a été dans le catholique, alors que moi, j'ai été dans le public laïque. Moi, j'ai été avec Viamonde. Elle a été dans une école qui s'appelle Georges-Étienne Cartier dans l'est de la ville. Mm-hmm. Et en fait... Elle, par contre, elle n'avait pas d'uniforme. Donc, elle était dans une école catholique
oui, ça peut arriver, ouais.
sans uniforme. Donc, je pense que c'est, ça, en fait, ça change en fonction des conseils scolaires et aussi des écoles en tant que telles. Et sinon, moi, en fait, c'est assez comique qu'on ait parlé des uniformes parce que nous, je me souviens d'un 1er avril quand on était au secondaire où, en fait, pour le poisson d'avril, le directeur, il avait dit on va mettre les uniformes alors que tout le monde était en train de dire non, nous, on veut pas d'uniformes, etc. Donc, c'est en fait, la question de l'uniforme et tout, c'est très dépendant de ce que chacun... veut, il y a énormément d'étudiants qui sont pour, énormément d'étudiants qui sont contre, parce que même si tu portes un uniforme, en fait, après, tu peux quand même le personnaliser avec des bijoux, avec des... tu le personnalises, en fait, en tant qu'étudiant.
Comme avec des coiffures aussi, c'est
exactement.
Ce que disait Estelle.
Exactement, donc tu trouves toujours, en fait, ta manière de mettre ta petite touche, donc voilà. C'est mon expérience. Moi, après le primaire, je n'ai plus porté d'uniforme.
Toi, tu as été au collège français,
moi,
c'est ça ?
Moi, j'étais au collège français de Viamonde. Et franchement, c'était super.
Et bon, on va marquer une courte page de pub musicale. De pub musicale, oui, Nat, très en forme aujourd'hui. Une courte page de pub et on va également mettre des musiques. Et le petit point de différence avec Bienvenue à Toronto et les autres émissions, c'est qu'on se charge de mettre des musiques 100% franco-ontariennes. Alors, bonne écoute sur Choc FM 105.1.
Seul quelque part dans mon malheur, je me questionnais sur le bonheur. Si bouleversé, noyé dans mon silence, cœur en bataille, perdu dans ma souffrance. Drôle de destin, maintenant te voilà tombé sur mon chemin. Suivre mon instinct, vraiment ce qu'il me faut c'est de partir au loin. Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi il n'y a que choix.
côté, tout est différent. Pourquoi ne pas suivre le courant? Une passion intime, des moments sublimes, le temps immobile, une crainte inhabile. Rien n'arrive pour rien. Dans le fond, tout ce que je veux, c'est quelqu'un de bien. Suivre mon instinct. Vraiment, ce qu'il me faut, c'est partir au loin. Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi, il n'y a qu'un choix, c'est de danser avec toi. Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi, il n'y a qu'un choix, c'est de danser avec toi. Avec toi, le sentiment de nouveau départ. Quand je danse avec toi, moins de tristesse, plus de richesse. Quand je danse avec toi, tranquillité qui m'adresse. Quand je danse avec toi,
la seule exigence, savourer l'ambiance. Charme élégant, ce qui est des belles fréquences. Aucune réticence, en toute confidence. Beauté intense quand on s'en danse.
Partir vers l'au-delà. Pour moi il n'y a que choix, c'est de danser avec toi. Partir vers l'au-delà, vers de nouveaux exploits. Pour moi il n'y a que choix, c'est de danser avec toi. Vers l'au-delà, la la la. Ton seul choix, danser avec toi. Vers l'au-delà, la la la. Ton seul choix, danser avec toi.
Et voilà, on a marqué une courte page de musique franco-ontarienne. J'espère que la sélection vous a plu. On est donc dans la deuxième partie de Bienvenue à Toronto. Et forcément, bah, quand on arrive à Toronto, on est nouvel arrivant, forcément, on ne sait pas trop où donner de la tête. Des fois, c'est un peu compliqué. On sait qu'on veut mettre nos enfants dans des écoles francophones, mais les terminologies, des fois, sont un peu différentes. La façon d'aborder les études sont aussi un petit peu différentes. Toi, Marine, je sais que ça ne fait pas si longtemps que ça que tu es arrivée. Est-ce que toi, tu arrives à comprendre? Par exemple, on en parlait hors antenne. Nous, par exemple, quand on dit baccalauréat, bah, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est l'année du bac, qu'on a 18 ans et que bah, c'est la fin, en fait. Ouais, c'est plus
ici,
la fin.
Ici, c'est un diplôme universitaire, si j'ai commencé à bien comprendre. Mais il y a des termes comme « graduate »,« undergraduate », que d'ailleurs, je
ne comprends toujours pas. La, ouais, c'est toujours difficile. Ouais.
Je sais qu'il y a les collèges français qui sont copiés sur le modèle français, mais pas forcément.
Pas forcément.
Les
écoles, voilà. C'est compliqué.
Ça, c'est ouais. Un vrai casse-tête. Et je pense qu'il faut faire attention, mm-hmm. Par exemple, à... Être en sixième ici,
ah oui.
C'est pas la sixième alors, du coup du système.
C'est la seule,
c'est la seule,
c'est la seule,
c'est la seule qui fit parfaitement. Parce que c'est quoi, toi t'as dit que t'étais arrivée en CE1 de France, mais ça correspondait à quelle année ici?
CE1, c'est la deuxième année.
Ouais,
ça... ouais voilà, c'est ça, ouais.
En fait, ça va à l'inverse, c'est-à-dire que nous on monte, alors qu'en France on descend à partir de la sixième, alors que nous on continue à monter. Donc c'est-à-dire qu'en France ça fait sixième, cinquième, quatrième, etc. Alors que nous on fait sixième, septième, huitième, neuvième, jusqu'à la douzième.
Et en 12e année, donc c'est la fin.
C'est la terminale.
Voilà, c'est la terminale en fait.
Et du coup, après. Du coup, pas par un baccalauréat, mais par.
Ah, alors ça dépend. C'est toujours pareil parce qu'il y a plusieurs programmes au sein des écoles. Donc, c'est ce qu'on disait, il y a des programmes PANA, des programmes MHS, des programmes IB. Donc, si tu fais IB, par exemple, c'est le baccalauréat international ou BI en français. Et là, oui, tu vas passer un bac, mais c'est parce que c'est un programme particulier qui est offert dans ton école, mais c'est un programme à part qui est mondial en réalité. Mais tu as raison, normalement, quand tu arrives en 12e année, c'est pas un baccalauréat que tu as, c'est juste tu as des examens, une série d'examens, c'est ce que tu as dû passer, j'imagine.
Oui, en fait, c'est tu n'as pas d'examen en tant que tel.
C'est un examen continu, en fait.
C'est exactement, c'est en fait en fonction de tes notes, etc. C'est, moi, j'ai jamais passé d'examen final. Bon, j'ai fait le BI, donc c'est un peu différent. Mais sinon, tous mes amis, en fait, ils avaient juste en fait, des tests normaux.
C'était alors, il y a quand même une semaine d'examen en fin d'année, mais et qui compte plus que le reste de tes notes. C'est-à-dire que c'est 25% de ta note globale. Donc, tu as raison, il y a un système de, en continu. Mais ils ont une semaine d'examen, un petit peu comme à la fac, où pendant une semaine, tous les jours, ils vont avoir des examens. Ça, toi, peut-être, tu n'as pas eu ça.
Moi, j'ai
ça,
pas eu ça parce que, justement, j'ai fait le BI, donc c'était
c'est
différent.
Ça. L'IB, c'est différent parce qu'en fait, c'est même pas tes professeurs, enfin, pas tout pas toutes les évaluations sont évaluées par tes professeurs de ton école.
Ah, tu l'envoies. Tu peux avoir des profs externes.
Exactement. Okay. Tu t'enregistres, par exemple, pour les oraux en langue. Tu fais des devoirs anticipés que tu as préparés. Puis tu as des épreuves, par contre. Et c'est même plus tôt que les autres examens.
Oui, c'est en mai.
Mais du coup, alors, comment ça fonctionne quand on est parent, c'est quoi la ressource déjà principale? Parce que quand t'arrives, comment t'en arrives à dire, alors je veux que mes enfants ils suivent ce truc-là?
Alors c'est ça, nous par exemple, dans mon école, on va avoir une présentation des programmes. Donc on va expliquer à nos parents tous les programmes qui sont offerts dans notre école. Donc comme je disais, on a plusieurs programmes. Donc l'IB, ça c'est un programme vraiment particulier parce que toutes les écoles ne l'offrent pas forcément. Tout le monde n'est pas école du monde. Et puis c'est quelque chose que tu payes. Donc en fait, nos élèves, là, les parents, ils payent leur examen.
Donc tu payes l'examen, mais pas les cours au
cours. Non, parce que ça, c'est nous qui l'offrons. C'est le conseil qui forme. Nous, on est formés. Mais moi, je ne suis pas payée davantage parce que je fais l'IB, par exemple. En tant qu'enseignante, nous, on n'est pas mieux rémunérés. Mais c'est un avantage pour nos élèves parce qu'on sait que, par exemple, s'ils veulent aller étudier dans un autre pays, c'est quelque chose qui est reconnu de façon mondiale. Et puis en plus, ce programme-là en particulier, ça te permet d'avoir des équivalences. Par exemple, à McGill, si tu fais le programme du diplôme et que tu as une certaine moyenne, tu peux arriver directement en deuxième année. Donc, même si tu payes, si tu veux, ça peut être un avantage parce qu'après, tu peux éviter de payer la première année d'université. Donc, c'est un beau programme.
Moi, c'est ce qui s'est passé, en fait, en fonction de tes notes du bac international. Exactement. En fait, si tu peux avoir, par exemple, je sais que c'est sur 7, les notes finales sont sur 7. Moi, j'ai eu 6 sur 7 en espagnol. Et en fait, je suis rentrée à l'Université de Toronto avec, comme si j'avais déjà fait ma première année d'espagnol.
Donc t'imagines le gain
financier. J'avais déjà des crédits universitaires, donc ça m'a fait économiser de l'argent et en fait ça m'a avancé déjà dans mon cursus universitaire.
Mais c'est pas les seuls programmes qui te permettent de faire ça. Il y a plein de programmes qui te permettent de faire ça en réalité. Il y a aussi les collèges parce qu'on parle beaucoup de l'université, mais en réalité il y a plein d'autres voies parce que le problème d'université, je le répète, c'est quand même assez cher.
Ouais.
C'est voilà, il faut pouvoir se permettre.
Et d'autant plus quand on n'est pas canadien parce qu'on avait fait une émission comme ça. Où justement on parlait des différences entre être un étudiant canadien et un étudiant ce qu'on appelle international, donc forcément avec un passeport non canadien, et on passait vraiment du coq à l'âne.
Oui.
C'est-à-dire d'un truc, j'ai plus les chiffres en tête, mais on va dire d'une...
Bah c'est à peu près 8 000 $ pour quelqu'un de canadien.
Et on parlait de 60 000.
En fait, 60 000, ça dépend entre 40 et 70 000.
Ouais, il y a quand même beaucoup de sous de différence par année.
À l'université.
C'est pour ça que ça peut être vraiment intéressant pour nos élèves, en réalité, de commencer par le collège, parce qu'il y a de très, très bons collèges, des très bonnes formations.
Je me permets juste de dire collège pour les francophones du Canada, c'est post-lycée, c'est des études supérieures, mais courtes, de 2 à 3 ans.
Exactement.
Donc, ce qui serait un peu une voie comme un BTS pour les franco-français qui nous écoutent, c'est un peu ça. On a déjà passé le diplôme de fin de cursus de petite école, grande école, lycée, machin. Mm-hmm. Donc, on passe ce diplôme et en fait, soit on a le choix d'aller en université, donc on va dire la voie un peu chère avec des grandes études, tout ça, ou alors des collèges. Mais là, c'est aussi payant, les collèges,
non ? Les collèges, c'est payant, mais si tu veux, déjà, tu peux être rémunéré quand tu fais tes stages, quand tu fais tes formations.
Il y a comme une alternance un peu.
Exactement, donc ça, c'est quand même une différence. Et puis surtout, ça te permet, tu as des passerelles pour retourner à l'université. Donc, si dans un premier temps, tu veux travailler ou tu veux avoir tout de suite, enfin assez rapidement, une formation assez solide, pour travailler, aller 2-3 ans, histoire quand même de te faire un petit pécule et de repartir à l'université, tu peux. Et puis, même pour médecine. Je veux dire, par exemple, tu peux commencer avec des soins infirmiers. Et vraiment, moi, j'ai une élève qui a fait ça et qui maintenant est en médecine. Donc, ça vaut vraiment la peine de regarder les différentes filières. Et je parle aussi de l'apprentissage. Il y a tout un programme qui s'appelle le programme PAJO. Et ça, c'est très intéressant pour les élèves qui veulent se spécialiser dans les métiers spécialisés, justement. Ceux qui veulent avoir une expérience professionnel et ça peut être très large. Là encore, tu peux partir comptable mais finir en finance ou en audit ou en, donc vraiment en plus le gouvernement de l'Ontario est en train de mettre beaucoup d'argent. On s'est rendu compte qu'on est en pénurie de main d'œuvre. Donc c'est des cursus, moi je conseille vraiment les parents de jeter un œil parce que tu peux commencer dans des bureaux d'études, finir en architecture. Il y a plein de passerelles en réalité. C'est spécialisé, oui, mais ici c'est ça qui est génial, c'est que tu as toujours des passerelles pour reprendre d'autres études qui t'amènent à autre chose, qui te font évoluer.
Des fois c'est peut-être aussi mieux de comprendre que le chemin risque d'être long et coûteux. Parce que moi, pour avoir une trentaine d'années, quand je parle avec des gens qui ont fait leurs études ici, des fois, ils me disent « je paye encore mes frais de scolarité ». Et genre, c'est des gens qui ont 35 ans et plus. Et tu dis
Je tiens juste à préciser quelque chose pour les collèges et universités. Au secondaire, il y a deux sortes de cours, appliqués et théoriques. Donc, en fonction de ce que votre enfant va vouloir faire, s'il veut s'orienter vers collège ou université, il va falloir qu'il aille prendre des cours appliqués pour collège ou théoriques pour université.
Alors, c'est plus si vrai, parce qu'il y a un décloisonnement depuis quelques années. Non, mais ça...
T'es trop vieille, Yannis.
Non, mais c'est pas ça. Mais ça change. Mais non, mais ça change tout le temps. Donc, c'est pas toujours évident. Tu as raison quand même dans une certaine mesure, ça reste encore un peu la norme, mais on est en train de changer ça. Okay. On est en train de décloisonner parce qu'on se rend compte que, bah oui, c'est complètement idiot aussi jeune de déterminer déjà des cursus.
Oui, c'est bloqué peut-être aussi.
Je sais que ma sœur, elle est en anglophone, et là, à l'heure actuelle, en fait, pour aller à l'université, elle avait pris par accident en fait un cours de mathématiques collège, et donc là, elle est obligée de prendre des cours d'été pour faire le cours universitaire, en fait, pour pouvoir aller à l'université. Donc, je sais que c'est assez contraignant, en fait, si t'es pas au courant, parce que...
Oui, il y a des crédits pour certaines formations, il y a aussi des niveaux de notes, ça, c'est important de le dire, mais la chance qu'on a, effectivement, c'est qu'on peut toujours reprendre des cours l'été, tu peux repasser même des matières que...
Ou même le soir, des fois.
Exactement. Ouais.
Oui, c'est assez impressionnant ici, la possibilité d'aller dans des cours un peu à n'importe quel moment de l'année, de la journée. Il y a une stagiaire, Julia, on en parlait juste avant, qui prenait des cours le matin à distance. Tout se fait beaucoup à distance en ce moment. Et donc de cumuler différents diplômes.
Et je conseille vraiment aux parents de se renseigner, parce qu'il y a donc tout ce qui est coop. Donc ça, c'est vraiment l'éducation coopérative, notamment dans les MHS, donc tout ce qui est dans les majeures hautes spécialisations. Ça permet aux élèves d'avoir déjà une expérience du travail. Par exemple, Julia, dont tu parlais, elle a bénéficié de ce programme-là. Et ça peut te permettre d'avoir un vrai travail d'été, d'être rémunéré par la suite. Au lycée, déjà.
Elles avaient des contrats, les stagiaires, Quand bien même elles étaient jeunes, il me semble qu'il fallait avoir 16 ans minimum, c'est ça. Mais elles étaient rémunérées avec un contrat, en fait, en tant que tel, un vrai emploi,
en
fait.
C'est valorisant, en plus, pour l'élève. C'est hyper valorisant, parce que...
Puis même, ça construit, sans qu'elle le sache, même si je pense qu'à cet âge-là, on est déjà très intelligent, mais ça construit déjà le CV.
Complètement.
Et un CV, c'est bête, mais des fois, on s'y prend beaucoup trop tard. Et la première expérience, surtout quand on est dans des études longues, des fois, c'est après les études.
Complètement.
Ou quoi que ce soit.
Ou même, imagine, tu te fais une idée du métier.
Et t'aimes pas.
Eh oui, finalement, tu vas... Non, mais c'est terrible. Tu finis ton cursus, t'arrives et puis tu dis « Ah ben non, c'était peut-être pas ça, finalement, comme je voyais le métier. » Là, il y a toujours, en 9e année, une possibilité pendant une journée. C'est nos jeunes au travail. J'en parle parce que c'est le 1er novembre, donc c'est bientôt. tu vois. Et c'est en ce moment. Donc, donc vraiment, je conseille aux parents, là aussi, sortez des sentiers battus, essayez de voir...
Puis parlez à vos enfants
voilà.
aussi.
Parce que souvent, ils connaissent le métier de leurs parents. Mais ils n'ont aucune idée des autres métiers. Ouais. Donc, c'est vraiment une bonne occasion. Puis, n'hésitez pas à appeler directement. Les banques ont ce genre de système où ils accueillent tous les élèves au même moment. Je veux dire, c'est déjà mis en place. C'est quelque chose qui existe, en fait. Donc, il suffit de se renseigner. Et des fois, même si c'est par voie interne, parce que tu ne peux pas arriver, toi, si tu n'as pas quelqu'un dans la banque, mais tu peux toujours parler.
Oui, le fameux piston. Mais le piston, c'est partout, ça.
Ouais, non, mais même sans piston. C'est-à-dire, vraiment, si tu parles, par exemple, à ton conseiller bancaire, si tu lui dis j'ai un enfant, c'est quelque chose qui l'intéresse, je suis sûre qu'il va très gentiment te proposer d'inscrire ton enfant dans ce programme-là, puisque c'est une journée. Mais rien qu'une journée, ça paraît complètement anodin, ce que je suis en train de raconter. Mais oui, ça fait déjà une différence dans la tête de votre enfant, ça va peut-être...
Puis on passe du fantasme un petit peu à la réalité de terrain, quoi.
Juste pour revenir sur MHS.
C'est justement, c'est cool que tu rebondis sur ça. Que même, il y a beaucoup de manière générale, il y a beaucoup d'abréviations. On parlait du programme
PANA.
Premiers arrivants. Ouais. Alors, c'est le programme d'appui aux nouveaux arrivants. Comment déjà les parents, de manière générale, ils peuvent avoir une idée de tous les programmes différents? Parce que c'est cool d'en parler avec les enfants, mais si eux-mêmes, ils ne sont pas très au courant de ce qui est proposé, est-ce qu'il y a des ressources pour
ça? Oui, il y a des ressources du ministère, déjà, qui sont publiées. Et puis, normalement, normalement, c'est le rôle de la direction d'école. Elle doit informer les parents. On a des conseillers d'orientation qui, nous, en tout cas, c'est fait dans notre école. Je vois que...
Anaïs, elle a un petit peu levé les yeux au ciel.
En tout cas, dans mon école, honnêtement, ils le font plutôt bien. Je te dis, là, on va avoir une réunion d'information sur les programmes. Donc, c'est eux qui sont censés t'avertir. Maintenant, par exemple, pour le programme PANA, c'est carrément dans ton dossier scolaire. Donc, tu es vraiment suivi, peu importe l'école où tu vas. Par exemple, si j'accueillais quelqu'un qui vient du public, ce serait marqué dans son dossier et on ferait le suivi parce que c'est des programmes qui ne sont pas que sur un an. En général, c'est des programmes qui sont... le baccalauréat, c'est sur 2 ans, voire plus si c'est commencé à l'élémentaire. Le MHS, c'est sur 2 ans. C'est le temps, justement, qu'ils puissent faire des projets, des choses. PANA, c'est vraiment pour appuyer les nouveaux arrivants et ça, ça concerne tous les élèves qui sont en provenance de pays, d'autres pays.
Que le Canada.
Que le Canada. Donc, ça peut être des pays du continent africain, mais ça peut être aussi des pays du continent européen, donc belge, la France, oui. non, mais je le dis parce que toujours les gens sont « Pourquoi mon enfant est dans le programme PANA ?» Comme si c'était terrible. Voilà. Alors qu'au contraire, c'est un appui. Il faut savoir que ça, vraiment... Il y a un appui très personnalisé.
Oui, puis c'est au-delà du cadre scolaire aussi, oui, c'est ce que tu me disais un peu hors antenne. On t'explique un petit peu aussi le béaba de plein de choses, de la vie.
De la culture. Ouais. Alors, ça va être aussi ouvrir un compte bancaire. Et des fois, ça aide même les parents.
Oui.
Et je précisais là aussi, parce qu'on parlait aussi de la formation pour les adultes plus tard, ben, les parents, par exemple, ont aussi cette possibilité, alors PANA ou pas, d'avoir des cours de français. Maintenant, les conseils scolaires ont mis en place pour aider justement quand on est dans un couple où le papa parle anglais, la maman français, bah, qu'ils soient à égalité quand on fait des réunions de parents.
Oui, et puis qu'ils ne se sentent pas isolés dans l'éducation de leur enfant, en fait.
Et ça, c'est formidable parce que du coup, ça permet à ses parents d'acquérir l'acquisition d'une langue quand même. Donc, ça peut être quelque chose même pour eux sur un plan personnel et c'est gratuit. Donc, c'est quand même des ressources que met le ministère en place. C'est énorme, je trouve.
Ça, j'étais pas au courant et je trouve ça génial. Mais d'ailleurs, du coup, j'ai une question. Est-ce que ces cours pour les parents, ils sont donnés forcément dans l'école où vont leurs enfants ?
Alors non, c'est des cours, il y a des sessions virtuelles et ça s'adresse, en général, alors je ne sais pas comment c'est réparti, je ne connais pas suffisamment, mais je pense qu'ils regroupent au contraire les écoles, mais ça devrait, normalement c'est proposé par tous les conseils francophones, donc toutes les écoles francophones devraient le proposer, et je sais qu'en tout cas à mon école on relaie l'information, et chaque année il y a des parents qui sont ravis parce qu'ils suivent les cours, et puis ça leur permet vraiment de mieux comprendre. Voilà,
Est-ce qu'ils ont un système de notation et tout aussi? Ils passent des examens et tout?
Faudrait, je ne sais pas. C'est une bonne question.
Parce que du coup, ils pourraient réviser.
Mais ça fait vraiment du bien. Je trouve que nous, on a une formation continue en tant qu'enseignants. Et ça fait vraiment du bien aux enseignants de se retrouver à la place de leurs élèves. Parce que tu réalises qu'est-ce que c'est le stress d'un examen, le stress d'être évalué. On oublie.
La pression des révisions aussi.
Exactement.
Moi, je vois que des fois, Anaïs, elle nous parle du fait qu'elle a encore des examens et tout. Elle me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Moi, je me rappelle l'époque, on dirait que j'ai 75 ans, mais l'époque où j'allais à l'école, moi, j'ai tendance à être très minutieuse dans mes trucs, je fais attention aux détails. Parce que pour moi, les détails font toute l'importance du truc. Et des fois, je passais des heures à faire des fiches sur un truc. Et puis au final, à l'examen, ils parlent d'un tout autre truc. Et puis, t'es dégoûtée parce que tu dis, oh là là, mais moi, j'ai mis tellement d'efforts et d'énergie dans mes révisions sur ce point. Puis au final, on parle d'autres trucs. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Du coup, de mettre les parents dans un système où eux aussi, ils apprennent un peu, bah, ils comprennent aussi leurs enfants et le stress qu'ils ont des fois.
Et là encore, je te dirais, on est très chanceux au Canada parce qu'on a vraiment des programmes d'appui pour les élèves, le programme de service aux élèves, qui s'adresse à des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, mais pas seulement. Moi, je trouve qu'on est quand même très avancé au Canada pour avoir connu le système français. Alors peut-être que ça a évolué, parce que moi aussi, je ne suis pas toute jeune, alors ça a peut-être progressé. Mais moi, je suis toujours en admiration. Justement, l'évaluation, typiquement, c'est vraiment pas l'évaluation surprise comme nous on avait, où justement tu révisais un point puis c'était pas celui-là qui tombait. Au contraire, ici, tu as une obligation d'avoir une évaluation formative. Donc les élèves savent exactement le format d'évaluation, savent exactement le type de... Oui, mais à la fois, c'est normal, je trouve. Et oui, parce que qu'est-ce que tu veux voir ? Tu veux voir ton enfant, enfin ton élève, au plein potentiel de sa réussite. C'est pas fait pour casser l'élève, ouais, en réalité.
Oui, il n'y a même pas de classement, en fait.
Oui.
Ouais. En comparaison avec la France, il n'y a pas du tout de classement. En tout cas, même quand tu as des notes qui sont considérées comme pas forcément bonnes, l'enseignant a tendance à te dire « c'est très bien, continue, ouais. Vas-y. »
Un peu dans ce truc toujours très positif. Moi, je me rappelle, alors après, je ne vais pas faire une émission franco-française basée sur ça, mais c'est mon expérience personnelle. Donc, moi, j'avais vraiment des profs qui avait tendance à prendre un malin plaisir à broyer les élèves. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu de la chance d'avoir des facilités, donc tant mieux, voilà. J'étais même celle qui aidait les autres à tricher pour qu'ils puissent avoir des bonnes notes. Bah si, parce que
oui,
souvent on
ça.
Pense que la tête de classe n'aide pas les autres et ils se disent « Ah, je suis la première ». Moi, je voulais aider les autres parce que je trouvais ça très, très malaisant de voir le prof dire « Eh ben, encore un zéro, et ben voilà, bah, c'est ça qu'on travaille pas, tu vas faire quoi de ta vie ? Rien, ramasser les poubelles ». Déjà, d'une, ramasser les poubelles, c'est pas un travail horrible que personne ne veut faire. Il y a des gens qui, ça les dérange pas d'avoir ce travail-là. Et heureusement qu'il y a des éboueurs, parce que sinon, on ferait quoi dans nos vies ? Et genre, déjà, de mettre des je sais pas, comme dire, ce métier-là, bah, c'est hyper dégradant, donc si tu travailles pas, tu finiras à faire ça. Je trouve que c'est pourri, déjà, de faire ça. Et de faire ça devant tout le monde.
Oui.
À la limite, qu'ils le prennent en fin de classe et qu'ils essayent de le secouer en disant un petit peu des trucs qu'ils peuvent essayer de le faire. Ouais. Trouver une source
non,
de motif,
mais
je trouve
non,
ça négatif.
Et surtout, ce qui est terrible, c'est d'en arriver là. C'est-à-dire que l'élève se sent obligé de tricher.
Ouais.
Dans la salle de classe. Et ça, vraiment, je pense qu'il y a toute une philosophie à revoir sur l'échec. L'échec devrait être vraiment montré comme un but, comment dire, d'apprentissage.
Ouais, comme une évolution continue à pouvoir toucher le goal.
Non, mais surtout, si t'as pas d'échec, tu sais pas.
Ouais.
Si justement t'as réussi à... dans la vie, qui n'a pas eu d'échec déjà?
C'est oui,
impossible.
C'est vrai que c'est quand on retombe qu'on se relève le plus facilement.
Et oui, et surtout tu apprends, c'est là où t'apprends le plus
de tes erreurs. Ouais.
Et c'est drôle parce que moi je fais un questionnaire justement aux parents et aux élèves aussi, mais surtout aux parents, en disant c'est quoi une bonne école, et puis je marque toujours dans les possibilités une école où mon enfant peut échouer. Puis ça choque tout le monde. Mais en fait, oui, si votre enfant se sent suffisamment à l'aise pour affronter ses échecs. Parce que je rappelle qu'il y a quand même des enfants qui ont de l'anxiété scolaire,
ouais,
qui ne veulent plus aller en cours.
Surtout depuis la pandémie aussi,
exactement.
Je pense que ça a augmenté pas mal.
Exactement. Puis on est tellement sous pression, c'est tellement facile maintenant de tout fliquer. C'est-à-dire qu'à notre époque, on n'avait pas tous les moyens technologiques. Tu ne rendais pas un devoir, peut-être t'arrivais à t'en sortir. Ou... Là, on sait tout sur eux tout le temps. Il y a des suivis très faciles à faire en permanence. Mais c'est terrible. Je veux dire...
on a l'impression d'être suivi tout le temps, quoi.
Bah, c'est ça. Et ils ont presque pas le droit à l'erreur. Parce qu'on leur dira, mais j'ai mis les notes en cours, tu as tout pour réussir. C'est toujours ça. En fait, c'est vrai. Ils ont tous les outils devant eux. Pourquoi tu n'y arrives pas? Donc, c'est encore plus culpabilisant pour l'enfant, presque. Donc, je pense qu'il faut qu'on repense l'échec. Ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Et de penser plutôt, effectivement, en compétences. Ah, bravo, tu as réussi à avoir ça. Bon, il te manque encore ça. Mais je vais peut-être t'évaluer que sur ce que tu as réussi. Ou, tu vois, ce genre de choses.
Ouais, d'être plus dans l'encouragement.
Ben oui.
Ouais. Je pense que ça ce format-là, il est bien. Mais après, je trouve, personnellement, en l'ayant vécu, qu'il n'est pas forcément juste pour les élèves, du coup, qui réussissent bien. Parce que du coup, moi j'étais une des premières de la classe, par exemple, et donc en fait, limite, la personne qui avait des moins bonnes notes était beaucoup plus, en fait, valorisée, limite, que les personnes qui avaient des bonnes notes. Donc en fait, c'est vachement... Ça crée, en fait, une certaine
frustration
limite.
Mais c'est bizarre, parce que normalement, au contraire, tu devrais t'appuyer sur tes bons élèves, et puis c'est eux qui vont pousser plus loin.
Oui.
Normalement, c'est eux qui deviennent un peu tes petits leaders. On
Ou
fait
tes
souvent
assistants,
des...
un
bah,
petit
on
peu
fait
comme...
souvent des tables d'experts. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup en littérature et tout ça, parce qu'il y a vraiment, il y a des domaines où tu peux être très bon, puis d'autres où
c'est pas
c'est
terrible.
Difficile.
Ouais.
On le voit vraiment. Hein. En poésie, par exemple, il y en a qui sont très, très bons en figure de style, et puis d'autres, ben, ça va être la grammaire. Il y a des esprits qui sont différents.
Et puis même, il y a des gens qui sont très bons en pôle
oui.
scientifique, d'autres, ça va être le pôle littéraire, et puis tu as l'impression d'être tout pourri dans un truc, alors que tu es très bon dans l'autre,
exactement.
Et tu n'as jamais l'impression... Enfin,
non,
moi,
mais
cas,
le but
pas,
final, en fait, c'est pas tellement les contenus d'apprentissage, c'est vraiment les habiletés de travail. C'est ce qu'on dit toujours, donc la planification, communiquer, savoir anticiper, c'est ça qu'il faut travailler davantage. Et puis ça, c'est ça qui te sert dans toute ta vie finalement, à l'université, dans ton métier. Et c'est ça qui te permet aussi de rebondir, d'aller d'un domaine à l'autre. Donc, je sais pas, oui, c'est peut-être qu'il y a encore des choses à repenser, mais je trouve quand même qu'en Ontario, on essaye d'avoir cette approche-là. De plus en plus.
Je peux conclure en disant, enfin, pas forcément conclure.
On va conclure cette deuxième partie juste après. Ouais.
C'est fructueux parce qu'il se trouve qu'il y a des statistiques qui sont sorties il n'y a pas longtemps qui mettent en lumière la réussite scolaire des élèves des écoles francophones en Ontario qui ont une moyenne au-dessus de la moyenne provinciale. En fait, ça aussi, c'est différent au niveau éducatif au Canada. C'est qu'il n'y a pas forcément une note à atteindre, mais il y a une moyenne provinciale qui est donnée et qui est un peu la référence pour les écoles et pour les élèves. Et les écoles francophones en Ontario fabriquent des élèves avec des meilleurs. En tout cas, ils ont des résultats au-dessus de la moyenne provinciale. Donc, il y a peut-être quelque chose à prendre au niveau des écoles francophones. Ouais.
Ben voilà, les écoles francophones sont donc un modèle à suivre. Nous, on vous donne rendez-vous juste après la pub. Les auditeurs de Choc FM 105.1, à tout de suite pour la suite de Bienvenue à Toronto.
L'émission Bienvenue à Toronto revient dans un instant. Restez à l'écoute sur Choc FM 105.1.
On est de retour dans la troisième partie de Bienvenue à Toronto avec pour aujourd'hui comme thème les écoles francophones à Toronto. Surtout, c'est ça qui nous intéresse. Toujours avec Marine Autogali, Anaïs Delomel et Estelle Loza. Alors, il y a un truc aussi, moi, je voudrais qu'on aborde, les filles, c'est ces fameux bus jaunes. Parce que forcément, quand on arrive d'un pays qui est autre, Amérique du Nord, c'est des trucs qu'on voit dans les films. Mm-hmm. On se dit toujours que c'est... On se demande toujours comment ça fonctionne. T'as l'impression que le bus, il te dépose et il vient te chercher devant chez toi. Alors, comment ça fonctionne exactement? Est-ce qu'il faut d'abord choisir son école et après, on choisit le bus et puis le bus, il vient en fonction des horaires de l'enfant? Enfin, voilà, moi, j'ai plein de questions à ce truc-là parce que je trouve ça génial, je trouve ça très cool. Et puis, en plus, je les vois arriver et partir tous les jours depuis Toronto-Ouest. Alors, comment ça fonctionne, ces histoires de bus?
Alors, il y a une société qui s'appelle Francobus qui gère tout ça en réalité et qui envoie directement un papier aux parents et qui leur dit vous êtes à telle école, voici l'arrêt de bus à côté de chez vous
qui est l'heure.
Et l'heure, ouais. Exactement, qui vous permet d'accéder à votre école. Donc, ton enfant, il est inscrit dans cet autobus-là. Donc, il a un arrêt précis. Ce qui est pas mal dans le conseil francophone, c'est que, ben justement, les deux conseils sont mélangés. C'est-à-dire que, par exemple, les élèves que tu vois partir, là, ils partent dans des bus qui prennent des élèves du conseil catholique et du conseil Via Monde. Donc, ça, c'est mélangé et ça ne dépend pas des conseils. C'est vraiment cette société-là qui gère... qui va dans quel bus.
Et puis en plus, vu le nom Francobus, ça veut dire qu'il s'arrête que dans des... Enfin, il s'occupe que d'écoles francophones de la région du Grand Toronto ou c'est pareil pour partout?
Alors, ça dépend effectivement. Alors, nous, par exemple, on a des élèves qui sont en dehors de notre...
Zone,
exactement. Ouais. Donc, du coup, pour eux, il y a un système encore qui est particulier. On peut leur donner des tickets de CTT. Donc, ça, c'est pour les écoles du secondaire. Hein, c'est-à-dire que les élèves sont suffisamment grands
pour pouvoir
prendre les transports en commun.
Le bus jaune, généralement, c'est que... En tout cas, moi, je sais que c'était que 7e et 8e année. Après, tu dois, généralement, l'école va te fournir des tickets de transport en commun que tu pourras utiliser. Mais généralement, en tout cas, je ne sais pas pour...
Tu peux faire les deux. En fait, quand tu es...
Parce que nous, on n'avait pas le choix.
Ah, peut-être parce que vous êtes au centre-ville.
C'était uniquement 7e et 8e année. Après, je pense que ça varie en fonction des écoles, etc.
Nous, tu peux prendre le bus jusqu'à ta 12e année, mais c'est vrai que rares sont les élèves. Tu penses qu'il y en a qui peuvent conduire à l'école, donc en 12e
année.
Vrai,
oui, c'est vrai.
C'est ça. Donc, après, ils préfèrent prendre les transports en commun avec les copains. Mais oui, moi, j'aime en tout cas l'idée du bus parce que c'est un endroit de sociabilisation qui est génial pour l'enfant. C'est une première responsabilité.
C'est une routine aussi quand on est petit. Ouais. Je trouve que autant quand on est adulte, la routine, c'est quelque chose qu'on évite parce que sinon, on a l'impression que nos vies, elles sont nulles. Alors que quand on est enfant, c'est hyper rassurant d'avoir de la routine, de savoir que le matin, il y a la personne du bus. Puis en fonction de qui c'est, on peut être plus ou moins copain avec le chauffeur ou la personne qui conduit le bus. Et puis, on sait qu'elle nous ramène aussi. Donc, puis c'est un stress en moins pour les parents. Moi, je me rappelle de mes parents, le matin, c'était fissa, fallait se dépêcher. Il y avait des embouteillages, machin. Enfin, du coup, la pression du retard était sur les parents. Alors que là, la pression du retard, elle est sur le bus, en fait.
Puis imagine la fierté du petit bout de chou qui prend pour la première fois son bus tout seul. Mmh. Tu sais, tu vois bien ces images où on les voit et puis ils nous font
coucou.
Et ça, c'est tellement mignon. Je veux dire, c'est une belle tradition pour moi, je trouve aussi. Puis c'est un endroit sécuritaire, ce qui n'est pas négligeable aussi. Parce que des fois, ben, quand tu travailles, quand t'es papa, maman, t'as pas toujours l'occasion d'accompagner tes enfants
des fois,
à la porte.
Il y a des bugs dans le système des transports en commun. Admettons, le train s'arrête et qu'on dit, bah, à ce moment-là, il n'y a plus de métro, il faut prendre un bus, il faut attendre la navette. Quand on est petit, forcément, des fois, ça
peut
être une source
d'angoisse. Pas non plus idyllique. Il peut y avoir des retards de bus aussi. Ouais. Si tu parles aux parents, ils vont me dire, mais attends. Mais il y a des solutions. C'est-à-dire que des fois, on amène des taxis. Il y a quand même des solutions pour les élèves. Donc, ils sont pris en charge.
Mais la question, c'est est-ce que c'est un service gratuit ?
Alors, oui, effectivement, c'est la ville qui te donne ce service-là. Donc, ça, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on donne des billets
tickets de
cet été à ceux qui ne bénéficient pas du service de bus. Donc, oui, c'est, en plus, c'est génial pour ça. C'est que tu n'as pas de soucis à ce niveau-là. C'est hyper équitable pour tout le monde.
Ouais.
Et admettons, mon prof d'anglais ou mon prof de sciences n'est pas là. Je finis plus tôt. Est-ce que le bus, il s'adapte ?
Ah, alors, attention, il y a une autorisation parentale. Ça va dépendre de chaque parent. Mmh. Mais normalement, c'est la responsabilité de l'école de que ton enfant, en fait, il finit, donc, disons, à 14h20. Toi, tu le mets devant le bus qu'il doit prendre. Et après, c'est la responsabilité de Francobus. Francobus vérifie, nous aussi, que les élèves
sont bien montés
dans le bon bus. Mmh. Mais quand ils sont plus grands, il y a effectivement une autorisation qui est donnée. Moi, mon enfant peut se rendre chez lui par ses propres moyens. Là, nous, on n'est pas censé vérifier est-ce qu'il est rentré par ses propres moyens, est-ce qu'il est rentré par Francobus. Ça, c'est plus notre responsabilité.
Il n'y a pas un appel qui est fait dans le bus de la part
Alors,
du chauffeur.
Quand ils sont petits, oui, tout est vraiment... Au contraire, il y a des gardes de bus, on les accompagne. Je t'avoue, même quand ils sont grands, mais bon, ça, je ne dois pas le dire. Mais on s'assure, si on voit traîner des élèves, est-ce que vous avez manqué votre bus ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a toujours... Nous, on fait en sorte d'avoir des gardes d'autobus. Il y a des enseignants qui sont là plus tard pour s'assurer que tout le monde rentre bien dans son bus. Mais après...
Mais généralement, même les chauffeurs, au bout d'un moment, ils connaissent... Les têtes, ils connaissent les étudiants, donc ils disent « Oh, pourquoi est-ce qu'un tel, il n'est pas là ?» etc. « Ok, il est malade ? D'accord, ok, pas de problème. » Donc en fait, ils s'ajustent aussi, je pense qu'il y a deux vérifications, il y a les professeurs et aussi les chauffeurs de bus.
Mais surtout quand ils sont petits. Quand ils sont petits, c'est ultra, ultra vérifié. C'est ça qui est bien, parce que c'est vraiment sécurisé.
Oui, qu'on n'en oublie pas.
Il y a des brigadiers.
Oui,
il y a des brigadiers dans les autobus. En fait, il y a des étudiants, des étudiants plus grands, qui font en fait du bénévolat et qui se porte volontaire pour être...
Pour surveiller un petit peu.
Brigadier, exactement, pour garder le silence.
S'assurer que ça se passe bien, que tout le monde soit présent et qu'il n'y ait pas de chicanerie dans les bus ou quoi que ce soit.
Et ça, c'est génial, parce que tu as déjà une petite responsabilité à ton niveau. Souvent, quand c'est les sixièmes années, quand ils sont dans les petites classes, et puis après, c'est les plus grands qui prennent soin des plus petits. Mmh. Et ça, c'est chouette aussi, je trouve.
Et ça se passe comment les jours de grande neige ? Parce que bon, on est au Canada, forcément, les gens qui nous écoutent, ils se disent « Ah, bah c'est génial, ils viennent nous chercher tout le temps, mais... »
Non.
Les jours de neige, ça se passe comment ?
Il y a des journées de neige. Donc, en fait, il y a des journées où l'école est fermée et tout le monde est content.
Ouais.
Mais plus tant que ça maintenant. Pourquoi ? Parce que maintenant, avec la pandémie, on a remarqué qu'on pouvait poster du travail sur,
en ligne.
Donc, avant, effectivement, les journées de neige, c'était vraiment pas de travail, rien.
C'était le repos, quoi. C'était le repos surprise.
Exactement. On revient un petit peu à ça parce qu'on a quand même, justement, on constate qu'on a des demandes à ce niveau-là.
Que les élèves sont fatigués, c'est intense.
Bah, déjà. Et puis, c'est des journées qui sont même perturbantes pour les parents. Faut pas oublier que les parents, s'il y a neige, ça veut dire qu'eux aussi vont avoir des difficultés pour arriver au travail. Ouais. Donc, on essaye d'être quand même plus souple et ne pas surcharger les élèves qui restent à la maison. On sait que c'est une journée où forcément ils vont être moins attentifs à être devant leur écran, et tant mieux. Ça fait du bien aussi d'être dehors, de jouer avec la neige, peu importe ton âge. Faut pas non plus, c'est ça le problème du tout numérique des fois, c'est qu'on devient, comme je disais, un peu trop
accroché
à l'écran, toujours en train de vérifier, parce que c'est très facile, et on perd de ce côté humain, de ce côté, c'est quoi la vie en réalité ? C'est aussi des fois de profiter de la neige quand elle tombe. On a tous ces souvenirs-là, et puis moi j'aimerais que mes enfants l'aient aussi finalement, non ?
Mais du coup, donc pas de service de bus quand c'est les journées de neige, mais admettons, la journée a commencé, par exemple comme aujourd'hui, il n'y a pas une neige,
mais... Il prévoit,
Ah, ils prévoient.
Ils prévoient
parce que
toujours.
Si, admettons, fin de journée pour les élèves, c'est-à-dire 14h20, mm-hmm. justement, et je voudrais qu'on en parle après vite fait aussi du rythme scolaire qui, moi, m'avait choquée parce que je trouvais que l'après-midi, elle est beaucoup trop libre. Moi, à leur âge, je finissais les cours, j'avais mon dernier cours à 18h, quoi.
Mais pas du tout. Alors là, c'est un faux semblant. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'activités parascolaires.
Exactement.
Il y a un monde caché que tu ne connais pas.
C'est peut-être ça.
C'est peut-être pour ça que tu entends encore des élèves.
C'est pour ça que des fois, je crie. Avec des ballons,
c'est ça. parce qu'en fait, il y a tellement d'activités.
Ben non, mais c'est vrai que c'est curieux. Comme on est entre les écoles ici, on entend vachement de bruit. Puis 14h30, beaucoup de bruit et plus rien après.
Ouais. Et des fois, des bruits vers 16h, justement.
C'est vraiment 8h, 14h30, t'as les horaires de cours, toi, quand
Moi, c'était 9h, 14h55.
Et après ?
Et après, bon, après, moi, j'étais assez impliquée dans l'école. Donc, j'avais des amis qui étaient, par exemple, dans les équipes de sport. Ça, c'est après l'école. Moi, je faisais du théâtre. C'était après l'école. J'avais des pratiques qui pouvaient, des fois, aller jusqu'à 18h si c'était supervisé par un enseignant. Mais ouais, donc, les horaires normaux sont soit 8-9h jusqu'à 14-15h. Mais généralement, ça ne va pas plus loin que ça. Après, c'est les activités parascolaires. Ouais. Organisé par l'école ou aussi au Canada il y a la culture du les enfants qui font du sport etc et c'est toujours après les cours. Moi par exemple ma sœur elle fait du foot, le foot les pratiques elles sont à 21h donc elle a besoin de rentrer, de manger et ensuite elle part à ses activités en fait extra-curriculaires donc,
Alors sauf que les activités extra-curriculaires ça coûte de l'argent, oui. Beaucoup d'argent.
Ah, ça c'est important de le dire pour les parents qui nous écoutent, qui ont
envie
de mettre leurs enfants.
Moi je peux te le dire
enfants.
Parce que j'ai mon fils qui fait du sport.
Ah oui, pas dans l'école.
Non, donc il faut quand même que école, il faut qu'il y ait... Non, mais les gens oublient ça. Parce que des fois, tu sais, nous, il y a par exemple un club de devoirs. Et puis comme c'est instauré, les parents disent, le club de devoirs, pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Parce qu'on a une réunion du personnel. Parce qu'en fait, les enseignants ne sont pas rémunérés pour toutes ces heures-là.
Ouais.
Donc toi, quand tu restes à 6 heures et que c'est ton prof de théâtre qui est là avec toi, il le fait...
Bénévolement,
oui. Sur son bon vouloir, parce qu'il est très engagé. Et là, il faut vraiment féliciter les enseignants. Puis je ne dis pas ça pour moi, mais je dis ça vraiment pour tous les enseignants de tous les conseils. C'est impressionnant de voir, quand tu vois les activités parascolaires qui sont proposées aux jeunes, cet engagement quand même des enseignants. Parce que tout ça, c'est gratuit, c'est fait à l'école, donc c'est quand même sécuritaire aussi à ce niveau-là.
Ouais.
Et c'est en plus vraiment personnalisé. Parce que nous, les clubs, c'est en fonction des intérêts des élèves. C'est-à-dire que les clubs changent chaque année.
Justement, j'allais demander comment ils naissent, ces clubs. Est-ce que c'est
des
clubs...
C'est les élèves.
Okay. Ouais. C'est pas des trucs instaurés, forcément, qui reviennent. Bon, je pense qu'il y a des activités comme, par exemple, le théâtre ou quoi que ce soit, qui sont plus ou moins instaurées, qui reviennent tous les ans.
C'est intéressant.
Pas forcément.
Non, en fait, moi, par exemple, j'ai été au collège français. Donc, on avait des cours de théâtre, mais on n'a jamais eu de club de théâtre. Au sein de l'école, de l'histoire de l'école, il n'y a jamais eu de club de théâtre. C'est moi qui l'ai créé.
Bravo.
Et c'est moi qui ai en fait entraîné chaque année le club de théâtre. Et en fait, quand je suis partie, petit à petit, le projet est parti en fait. Donc c'est vraiment en fonction des élèves. Et je sais que par exemple, ma cohorte était vachement engagée. Donc on avait créé le journal de l'école, qui n'était pas d'actualité. On avait créé le club de théâtre, on avait créé des équipes de sport, on avait créé le club de l'environnement, le club LGBTQ. Il y avait vraiment eu beaucoup de clubs en fait dans la cohorte dans laquelle j'étais et ça en fait ça avait ravivé un peu notre école et c'est beaucoup plus agréable. Mais pour revenir sur ce que Estelle disait par rapport aux enseignants, je sais que donc c'est dans certaines écoles les enseignants il n'y a pas de problème, ils restent après les cours et ils sont vraiment à fond derrière toi pour les activités parascolaires, mais dans d'autres écoles c'est très galère parce que justement les enseignants en fait ils travaillent de 9h à 15h et à 15h ils partent. Donc c'est-à-dire que moi par exemple pour mon club de théâtre j'ai vraiment eu de la difficulté à trouver des enseignants en fait qui étaient d'accord de rester parce que j'étais obligée d'avoir un enseignant avec moi si je voulais faire après les cours et en fait j'ai eu de la difficulté à trouver des enseignants qui étaient d'accord de rester jusque 18h, 19h et des fois...
Alors d'où l'intérêt pour les parents de vérifier déjà les programmes qui sont dans l'école parce que par exemple dans mon école il y a le PSAT, le programme spécialisé en art de Toronto. Donc là forcément tu as des cours hors horaire qui sont aussi des clubs. Donc du coup, tu as théâtre, musique, toute la semaine. C'est-à-dire que...
C'est super intense.
Ah oui, c'est super intense. si tu fais tout. C'est toujours pareil. Mais après, ça dépend ce que tu aimes. Il y a de la comédie musicale, il y a du café chantant, il y a de la scène ouverte. Donc, il y a de l'impro, c'est pas tout à fait pareil. Donc, chacun va retrouver ce qui lui plaît. Mais ce qui permet surtout d'avoir une présence dans l'école, et ça, c'est formidable. Donc, tu as raison de dire que c'est selon l'engagement des enseignants, parce que c'est vraiment ça. Ça va dépendre de l'élève. Elle a raison. C'est-à-dire que nous, heureusement qu'on a des élèves, par exemple, on a un club de mode qui est juste génial, mais c'est vraiment grâce à nos élèves. On a un club d'écriture,
elle était complètement indépendante. C'est eux qui sont source de propositions, en fait.
Exactement. Et c'est vrai qu'il faut, bah, il faut un dynamisme des deux côtés. C'est-à-dire qu'il faut trouver aussi ton enseignant qui veut s'engager auprès des élèves. Tu as raison de souligner que ce n'est pas forcément la norme, mais quand même, je trouve que c'est remarquable.
Mais du coup, ça veut dire qu'un prof, je dis n'importe quoi, un prof de maths peut être le prof qui surveille...
Si tu savais.
Le cours qui surveille, je sais pas, le cours de DJ, par exemple.
Si tu savais, c'est très drôle. T'as un exemple? Moi, j'en ai plein.
Moi, j'ai pas forcément d'exemple. Bah, moi, j'ai eu la chance d'avoir justement le professeur de français théâtre qui a supporté mon club. Mais sinon, il y avait plein de... Il y avait, par exemple, le professeur d'art qui faisait le sport et tout ça. Donc, c'était assez...
Je me suis retrouvée à superviser un club de création de jeux vidéo. Je n'ai aucune idée de ce que faisaient vraiment les élèves sur ces ordinateurs. Mais eux, ils étaient très contents, ils m'ont montré des trucs. Et puis c'était terrible parce qu'ils venaient me voir et me disaient « Madame, il faut vraiment t'y mettre, c'est pas possible !» Mais l'important, c'est ça, c'est d'offrir l'espace, finalement. Le lieu, être là, superviser, ça veut pas forcément dire que
t'es l'expert. Puis t'apprends des choses aussi, toi.
C'est vraiment, je te dis, c'est les élèves qui sont le moteur.
Mais tous ces clubs, c'est non noté, c'est complètement hors cursus.
Alors après, quand tu fais l'IB, il y a des programmes. C'est pour ça que je te dis qu'il y a des programmes qui sont quand même porteurs dans des écoles. Comme le PSAT, ça va t'aider. Il va y avoir des artistes. Donc forcément, eux, ils vont s'investir dans les clubs. Nous, on a une équipe technique, par exemple, ce qui est quand même assez rare, qui fait tout l'auditorium, le son, tout ça.
Ils font les décors aussi.
Ils font les décors avec l'atelier de menuiserie. Donc, il y a des choses qui peuvent être en lien avec les cours. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand tu as l'IB, c'est pas mal parce que tu as des élèves qui font le programme, qui font CAS, qui font créativité, activité, service, encore un acronyme. Et en fait, ils sont obligés de faire un projet dans leur communauté. Ça, c'est évalué. Ça leur permet ou pas d'avoir le diplôme à la fin de l'année. Donc, ils ont intérêt à le faire. Et du coup, ça va t'apporter effectivement un rayonnement. Donc,
oui, il y a quand même une carotte à participer
eux,
à certains clubs.
Oui, c'est rare. Déjà, parce que dans les programmes IB, ils sont pas si nombreux que ça, les élèves. Nous, on a une grosse cohorte à l'IB, mais c'est pas du tout forcément le cas. Toi, combien vous étiez?
On était trois.
Voilà, donc tu vois. C'est ça.
En fait, ça a commencé, généralement, ça commence dans la 10e année, 15-20 personnes, et en fait, au final, c'est les trois survivants.
Non, on a beaucoup de chance, oui. Dans mon école, j'ai 16 élèves à l'IB programme, donc t'imagines en certificat. Donc ça te dynamise beaucoup ton école. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que l'école reconnaisse les talents, et tous les talents. Que ça soit en sport, que ça soit... Nous, on a des cours de, comment ça s'appelle, de leadership. Et ben, c'est beaucoup de sportifs qui font ça, par exemple. Ce qui est important, c'est que ton élève arrive à se retrouver dans ce qui est proposé, dans ses passions. Nous, c'est pour ça que ça change tout le temps. Des fois, on a des trucs de Rubik's Cube, après échecs. Il faut que tout le monde s'y retrouve parce que tout le monde n'est pas sportif.
Oui, puis tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt.
Exactement.
Donc, est-ce que c'est quelque chose, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est différent sur le monde du travail canadien, c'est les CV. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on apprend à mettre sur son CV, des petites cases?
En fait, ce qui est important de mentionner, c'est que comme c'est extracurriculaire, généralement pour graduer, juste pour le diplôme de l'Ontario, tu as besoin d'avoir 40 heures de bénévolat. Donc, en fait, ça, par exemple, tous les clubs, etc., ça peut compter dans tes heures de bénévolat. Et moi, par exemple, comme j'ai fait le BI, je devais avoir 150 heures ou en tout cas plus d'heures de bénévolat à faire. Donc, le club de théâtre m'a aidé en fait à remplir ces heures.
Alors, je vais rectifier un peu ça. C'est-à-dire que normalement, IB, tu ne peux pas prendre tes heures de bénévolat pour que ça compte pour ton programme. Si tu l'as fait, c'est pas grave, mais normalement, tu n'y as pas le droit. C'est-à-dire que tu dois avoir déjà fait tes 40 heures Ontario pour après.
Moi, j'en ai fait 350.
Donc, oui, donc, c'était mais attention, parce qu'ils ne peuvent pas compter pour les deux. Surtout qu'après, tu as une bourse souvent associée à ton niveau d'engagement communautaire. Nous, on a un élève la dernière qui s'est engagé beaucoup pour la Croatie, pour l'Ukraine, et qui a fini dans les forces armées. Et il a fait vraiment beaucoup de choses avec des camps de réfugiés, des choses vraiment hyper intéressantes. Donc là, on voit que, tu vois, ça a un vrai sens, en fait. Ce bénévolat, il a un vrai sens. Donc, c'est vraiment pas pour juste faire ton CV, c'est vraiment dans l'optique d'aider ta communauté. Bref. Et ce qui est intéressant, tu as raison, c'est ça c'est vraiment la différence avec la France ou quoi que ce soit, c'est que ça te fait une première expérience, ces 40 heures de bénévolat. Après, pour les autres programmes, même pour le bénévolat, normalement, tu ne dois pas, c'est pas des heures qui devraient être à l'école.
Non, c'est ça, ouais. C'est après l'école.
Voilà, ça ne devrait pas être considéré comme, comment dire, oui, ça devrait vraiment être...
Durant les heures, en fait, ça ne peut pas être considéré comme du 9h-15h. Si tu fais une activité, par exemple, au lunch...
Il faut qu'elle soit en
ça
dehors.
Ne peut pas, ouais. Ça ne peut pas être considéré comme une...
Ouais, c'est compliqué. Il y a des critères. Ouais. Par exemple, nos élèves qui sont au conseil des élèves, qui font plein d'activités pourtant, qui sont hyper actifs, on est limité dans les heures de bénévolat qu'on peut leur donner, par exemple. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant parce qu'ils sont des fois tellement plus engagés. Mmh. Et ça ne m'étonne pas que tu aies fait je ne sais combien d'heures. c'est formidable. Mais oui, donc il faut respecter. Il y a quand même des critères, on va dire, pour les heures de bénévolat Ontario et pour après tes heures dans les clubs.
Ouais.
Normalement, c'est deux choses un peu différentes. Normalement, tu devrais avoir un superviseur un peu extérieur à l'école, c'est mieux.
Un œil un peu plus neutre.
Ouais, c'est ça.
Mais dans tous les cas, pour répondre à ta question, oui on peut l'ajouter à ton CV comme une expérience. Moi, je l'ai sur mon CV comme une expérience en fait, de début de bénévolat.
Excellent.
Alors, on va finir cette troisième partie. Et puis, moi, je voudrais qu'après, on parle rapidement, parce qu'il ne nous reste pas tant de temps que ça sur cette émission, sur les programmes qui sont proposés pour les adultes. Je sais que Marine a deux, trois trucs à nous dire, d'ailleurs, sur notamment les cours proposés à la Bibliothèque de Toronto. On se retrouve tout de suite dans Bienvenue à Toronto.
L'agenda régional.
100% Toronto.
L'agenda régional.
Du samedi 21 octobre au dimanche 22 octobre, visitez la belle ferme effrayante de Riverdale. Elle sera décorée pour l'occasion d'Halloween. Elle est située au 201 rue Winchester, Toronto. La ferme de Riverdale est une ferme en activité située dans le quartier Cabbage Town du centre-ville de Toronto. Vous aurez l'occasion d'avoir un avant-goût de la vie à la ferme. Ne ratez surtout pas cette occasion. Pour plus d'informations, rendez-vous sur grandtoronto.ca. Le jeudi 26 octobre, entre 20h et une heure, joignez-vous au chœur Mendelssohn de Toronto dans un voyage de passion, de désir, en découvrant Carmina Burana de Call Off avec son ouverture sans équivoque au Fortuna. L'événement aura lieu au Roy Thompson Hall. Pour plus d'informations, rendez-vous sur grandtoronto.ca.
C'était l'agenda régional.
Choc 105.
Eh bien, ça y est, on est déjà à la fin de cette émission. Bienvenue à Toronto. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de choses à dire sur les écoles francophones à Toronto qu'on s'est dit que, en fait, les programmes pour adultes, ça nécessitait peut-être juste un épisode à lui tout seul. Donc, on aura l'occasion de discuter un petit peu de tout ça une prochaine fois. Puis, ce sera aussi peut-être l'occasion d'avoir d'autres panélistes autour de la table. Mais oui, je pense que, Marine, on va pas parler en deux secondes de tout ce qu'il y a à dire sur les programmes pour adultes.
Non, je pense qu'on peut revenir.
On peut revenir. Anaïs, pareil, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet.
D'accord.
Estelle, on est
d'accord. Moi, je vais écouter. Je vais vraiment écouter. Je vais être branchée. Dès qu'elle sort l'émission, je serai là.
Bah voilà, je pense qu'on fera une autre émission en tant que telle où on parlera juste des programmes pour adultes, parce que sachez que la ville de Toronto propose de nombreux programmes en français pour les adultes dans divers domaines et variés. Tout est varié, tout est à votre choix. Vous pourrez trouver plein de trucs et on en parlera plus en détail dans une autre émission. En tout cas, merci à vous trois d'avoir participé à cette super table ronde sur ce sujet, les écoles francophones à Toronto. J'espère surtout qu'on aura aidé pas mal de parents qui se posent pas mal de questions. C'est sûr que quand les nouvelles arrivant, des fois c'est un peu difficile de comprendre comment ça fonctionne, il y a beaucoup d'acronymes, on en a parlé aussi beaucoup, le bus, comment ça fonctionne, enfin bref, j'espère qu'on aura éclairé vos lanternes sur pas mal de sujets. Cette émission, elle sera diffusée donc, comme je vous le disais, le samedi à 10h, en rediffusion à 17h le dimanche, et surtout on va pas oublier de mentionner notre bailleur de fonds. En effet, cette émission est proposée grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission.
Merci. Au revoir, merci.
À bientôt.